20 000 personnes, tous les tatoués du pays, sans tenir compte d'aucun code pénal, et en quelque sorte, il a diffusé des vidéos des prisonniers crâne rasé dans les prisons. Il est devenu très populaire et de fait, le taux d'homicide a chuté complètement jusqu'à faire du Salvador aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs du monde. Le taux d'homicide, je crois, est plus faible qu'au Canada.
Exactement. Et là, je pense, se pose le véritable problème. C'est-à-dire, au fond, quel est le point commun de tous ces prédateurs politiques ? C'est qu'ils promettent une forme de miracle. Le miracle en théologie, c'est Dieu qui s'émancipe du fonctionnement normal du monde des hommes pour intervenir directement sur une situation et produire un résultat concret. Ça, c'est véritablement la définition du miracle. Et dans des sociétés qui ont beaucoup de problèmes ou dans lesquelles il y a un taux de défiance très élevé et dans lesquelles, de toute façon, beaucoup de gens ont la sensation que rien ne change, que rien ne peut être fait, qu'il y a de toute façon trop de règles, trop de contraintes, on vote d'un côté, on vote de l'autre, ça ne change rien. Eh bien, le prédateur politique, il promet un miracle politique au sens où il dit « Moi, je vais bien évidemment m'émanciper des règles et des lois. » D'ailleurs, presque tout de suite, ces personnages-là entrent en contraste avec les instances judiciaires de leur pays, avec les juges, même parfois avec les avocats. Mais, dit-il, le prédateur, je vais le faire pour pouvoir m'attaquer à un de vos problèmes, à un problème du peuple. Et qu'il s'agisse, dans le cas de Bukele, en effet, au Salvador, le problème de la criminalité était terrifiant, et donc la criminalité, ça peut être comme Trump, l'immigration, ça peut être même l'inflation, le pouvoir d'achat, le fait que, voilà, que des emplois partent à l'étranger, etc. Et donc, alors, quand ça ne marche pas, comme c'est le cas de Trump, hein, qui fait des miracles, qui propose des miracles, mais ça n'a pas l'air de très
grippe,
bien marcher.
La machine grippe.
Bon, alors, évidemment, ça peut poser des problèmes. Mais le vrai problème se pose quand le miracle fonctionne. Dans le cas de Bukele, moi, je l'ai vu à l'Assemblée des Nations Unies. Il est venu faire un discours, c'est d'ailleurs un orateur très efficace, et il est venu à la tribune en disant « Vous m'accusez d'avoir mis en prison des milliers de gens, mais moi, je viens vous dire que j'en ai libéré des millions ». Parce qu'aujourd'hui, au Salvador, tout le monde peut se promener dans les villes la nuit sans avoir peur de se faire assassiner. Et c'est là, véritablement, que nous, démocrates, évidemment attachés à l'état de droit, aux procédures qui sont la raison même, disons, ou non pas la raison, mais la substance même de la démocratie telle que nous la concevons, nous avons du mal à nous confronter à ça.
Alors oui, de fait, Bukele, en février 24, a été réélu avec 84% des voix et son parti, à la tête de son parti Nuevas Ideas, Nouvelles Idées, qui n'existait pas 6 ans plus tôt, et les élections étaient libres. Il y a eu 3000 observateurs internationaux qui ont certifié l'absolue régularité des élections. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le dictateur le plus cool de la Terre a été réélu démocratiquement après avoir rendu son pays absolument beaucoup plus sûr qu'il ne l'était jusque-là. Et on a l'impression que ces nouveaux prédateurs, Trump leur a servi de révélateur en quelque sorte. Le lendemain de l'élection de Trump, vous signalez que Bukele proclamait sur X, quelle que soit votre préférence politique, que vous aimiez ou non ce qui s'est passé, je suis certain que vous ne saisissez pas pleinement la bifurcation de la civilisation humaine qui a commencé hier, c'est-à-dire avec l'élection de Trump. Et cette bifurcation, vous l'appelez le moment machiavélien, et vous le définissez par deux règles. C'est la première loi du comportement stratégique du nouveau des prédateurs d'aujourd'hui est l'action, et il faut que ce soit une action irréfléchie, c'est-à-dire qui transgresse les règles et qui apparaît en tout cas comme parfaitement spontanée.
Je pense que cette composante irréfléchie de l'action est très importante parce que si vous êtes au fond dans une action qui a été mûrement considérée, analysée et supportée par des études, etc., bon, vous n'êtes pas dans un véritable acte de pouvoir, vous êtes dans un acte, encore une fois, qu'un technocrate, quelqu'un de la vieille génération des politiques pourrait accomplir. Alors qu'un acte irréfléchi ou brutal, parce que cette composante de brutalité, on la voit par exemple dans des scènes, les scènes qu'on nous impose du studio Oval, du bureau Oval, très fréquemment, non, ces scènes d'humiliation, ces scènes très violentes qui ont lieu.
Avec Zelensky.
Voilà, je parle de Zelensky, mais de bien d'autres, de presque tous les chefs d'État qui passent par là. Eh bien, ces scènes-là, par contre, ce sont des scènes qui sont des véritables actes de pouvoir. Très souvent, il réfléchit, et ça, je cite dans le livre un vieux duc de Saxe du XVIIIe siècle que ses conseillers priaient de réfléchir et d'analyser avant de prendre une décision, qui dit « Je ne veux ni réfléchir ni analyser, sinon pourquoi serais-je duc de Saxe ?»
Oui.
Donc là aussi, je pense que ça remonte assez loin.
Alors, mais c'est ça qui est très troublant, c'est-à-dire que c'est ce que vous dites, que c'est ce que les habitués du Kremlin appellent le contrôle manuel, c'est-à-dire le contournement du système et des règles. Mais ce à quoi on assiste, c'est à une forme de nouvelle inculture du pouvoir. C'est-à-dire que c'est ça qui est très troublant. Il y a une vraie défaite des intellectuels. Vous rappelez que Trump ne lit absolument jamais, mais rien, jamais un livre, jamais même une note de celle qu'on lui envoie. Tout est basé sur la culture orale et sur l'instinct, en fait, et qu'il y a paradoxalement un vrai génie politique chez Trump, quels que soient les résultats, parce que les résultats ne sont pas nécessairement au rendez-vous après, mais dans la manœuvre, en tout cas, il y a un vrai génie politique. Ouais. Et donc cette disjonction entre la culture intellectuelle d'un côté et le génie presque animal de l'autre est très troublant dans la modernité, dans l'ère moderne qui s'ouvre.
Oui, alors je pense que pour comprendre ça, il faut quand même se pencher sur le deuxième élément qui me semble central dans cette évolution, c'est-à-dire le moment machiavélien. Bien évidemment, vous avez ce retour de personnages d'un autre âge, mais il s'appuie sur une évolution technologique et un nouvel écosystème qui est celui dans lequel nos démocraties balancent, qui est l'écosystème du numérique. Je pense que c'est très important de faire le lien entre ces deux éléments. À l'époque de Machiavel, les petites républiques de la Renaissance, y compris la patrie même de Machiavel, Florence, sont balayées, bien évidemment, par une invasion qui vient de France, d'ailleurs, à cette époque-là, mais aussi par une explosion de violence qui est liée à une nouvelle technologie qui est l'invention et le déploiement de l'artillerie lourde. L'artillerie lourde donne un avantage à l'agresseur parce que elle est capable de pénétrer les murailles des petites villes et des petites républiques de la Renaissance qui avant pouvaient se protéger des assauts simplement en refermant les portes. Ça ne marche pas avec l'artillerie lourde qui donne donc une prime à l'agresseur. Et à chaque fois que dans l'histoire vous développer des technologies offensives qui sont plus rapides et beaucoup plus fortes que les technologies défensives, vous avez des moments plutôt de guerre, des moments plutôt chaotiques, des nouveaux personnages qui montent sur la scène. Et le numérique, qui est la dimension dans laquelle nous basculons tous de plus en plus, non seulement le débat public et le débat démocratique, mais même la vie de chacun d'entre nous, a exactement le même même caractère. Une cyberattaque ne coûte rien, elle fait des dégâts immenses, très difficile de s'en protéger, et même si, sans aller aussi loin, une campagne sur les réseaux sociaux, on le sait bien, disons, la prime est toujours à l'agression, à la violence, à l'extrême, et dans tous les cas. Et donc, nous voyons aujourd'hui, je pense, ressurgir ces figures borgiennes dans un écosystème différent.
Mais alors, il y a un écrivain que vous citez à propos de ça, à propos de la technique, c'est Malaparte, dans un passage passionnant. Malaparte, qui était donc longtemps un soutien de Mussolini, il a écrit un livre qui s'appelle « Technique du coup d'État » et il montre que quelque chose a changé au moment de la révolution soviétique dans la façon dont on s'emparait du pouvoir. C'est-à-dire que là où Kerensky, qui avait pris le pouvoir en Russie à la suite de l'abdication du tsar, prenait toutes les précautions possibles contre une éventuelle insurrection bolchevique, en défendant les organisations bureaucratiques et politiques de l'État et les institutions, Trotsky, dit Malaparte, a compris qu'en fait, pour s'emparer de l'État moderne, il faut une troupe d'assaut et des techniciens, des équipes d'hommes armés commandées par des ingénieurs qui envahissent les centrales électriques, les gares, les infrastructures, et c'est-à-dire que les communistes ont pris le pouvoir sans que le pouvoir s'en rendre compte, voilà. À un moment donné. Et c'est l'analyse que fait Malaparte. Et vous dites que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui au niveau mondial.
Oui, je pense que c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on a vu, en réalité, toute une série, voilà, c'est vraiment un peu l'histoire que j'essaie de raconter dans le livre, s'il y en avait une, parce que comme vous dites, c'est surtout des scènes, mais s'il y avait une continuité, ce serait cette sorte de montée en puissance sur 30 ans, des gentils jeunes hommes en sweat à capuche qu'on a vu apparir à la moitié des années 90, qui étaient donc les entrepreneurs de la tech, dont on s'est dit au départ qu'ils étaient bien gentils. Après, ils ont gagné énormément d'argent avec leurs entreprises, et on s'est dit que c'était des entreprises, que c'était l'innovation. Et puis, on a vu que ça avait un effet politique et on s'est dit ça a plutôt un effet positif, ça permet de faire émerger de nouvelles voix, des outsiders, etc. Mais tout ça ne s'est pas arrêté là, ce processus a continué. D'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui de et bien évidemment du couple un peu troublé que constitue Musk et Trump, mais il y a 13 ans déjà, je raconte dans le livre le rôle qu'a eu Eric Schmidt, ancien patron de Google, pour la réélection d'Obama en 2012, une opération colossale de construction d'une banque de données la plus avancée qu'on ait jamais vue sur les électeurs américains, qui permettait de cibler un par un tous les électeurs qui pouvaient être importants pour la réélection d'Obama. Et donc, voilà, on a vu progressivement cette montée en puissance de la dimension du numérique, nos vies et surtout la vie de nos démocraties qui se déplacent des sièges et des lieux normaux dans lesquels elle avait lieu avant. Donc, nous sommes par exemple à la radio, ça peut être d'autres médias traditionnels, c'était la rue, c'était des assemblées, c'était des partis, c'était des lieux où la démocratie, s'était développée. Elle se déplace, cette vie démocratique, dans la sphère du numérique, dans laquelle il n'y a aucune règle, parce qu'on a décidé de n'imposer aucune règle à la sphère du numérique. Donc c'est une sphère où il n'y a que la loi du plus fort, une forme de presque d'État en faillite, qui est donc des bandes de seigneurs de la guerre qui font la loi dans le numérique. Mais c'est là que nous vivons aujourd'hui, c'est là que nos démocraties vivent de plus en plus, et Tout ça s'est passé sans que les responsables politiques, les ministres, les gouvernants, les chefs d'État et les chefs de gouvernement ne s'en soient rendus compte. Jusqu'au moment où, comme aujourd'hui, ils risquent d'être balayés.
Balayés eux-mêmes. Oui, dans l'histoire d'Eric Schmidt et d'Obama, vous rappelez que, en fait, ce qui s'est passé en 2012, c'est que, grâce à ce qui s'appelait le projet Narval, Obama a entamé l'année de sa réélection avec la certitude de connaître le nom de chacun des presque 70 millions d'Américains dont le vote le portait à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que, en fait, ce à quoi on assistait avec Trump et Cambridge Analytica, en réalité, avait été complètement mis en place par Obama, à peu de choses près.
Tout à fait.
Et d'autre part, ce que vous dites, c'est que ce passage au numérique, c'est la fin de la centralité, en fait. Vous dites, dans un monde où la condition numérique est devenue la première expérience véritablement globale, les dynamiques propres à Internet et aux réseaux sociaux peuvent être exploitées plus ou moins de la même façon partout, et le Nigeria devient un excellent terrain d'essai pour une campagne dans un pays scandinave. Tant que la compétition politique se déroulait dans le monde réel, sur les places publiques et dans les médias traditionnels, les coutumes et les règles de chaque pays en déterminaient les limites. C'est plus le cas aujourd'hui. On est entré dans ce que vous appelez une sorte de Somalie digitale mondiale, où on pourrait dire il n'y a plus de centre et tout est la province et tout est mis à égalité.
Oui, mais d'ailleurs, c'est l'explication du phénomène dont vous parliez avant, c'est-à-dire des réalités relativement marginales, comme peut être le cas du Salvador de Bukele, comme peut être la tronçonneuse de Milei en Argentine, non, s'attaquer aux dépenses publiques, qui partent donc de ces endroits-là et qui deviennent des slogans, des politiques publiques et même des choix aux États-Unis. C'est donc une forme de périphérie ou d'expérience périphérique qui remonte vers le centre, alors que traditionnellement, le parcours de l'innovation politique, y compris de la communication politique, de la propagande, etc., ça partait du centre, et après on imitait un peu partout ce qui se passait, d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe, etc. Donc tout ça s'est modifié très profondément.
Ça va de pair avec un effondrement à peu près total de tous les lieux traditionnels du savoir, médias, universités, j'en passe. Tout est en train de s'effondrer complètement en réalité. La crise qu'on voit dans les universités n'est pas exclusivement le fait de la politique de Trump, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est ce changement, en même temps, c'est difficile d'aller... Enfin, je veux dire, ça sert à rien de le nier en quelque sorte. Ça sert à rien de. On peut se demander si ça sert à quelque chose d'essayer de s'accrocher aux oripeaux de ce monde ancien plutôt que d'essayer de plonger dans le nouveau pour le comprendre. Non ?
Alors, je pense que c'est l'erreur que nous avons faite en 2020 après l'élection de Biden. On a voulu se dire qu'au fond, l'élection de Trump était un accident de parcours, qu'on revenait vers une forme de normalité, que de toute façon, Trump s'était complètement décrédibilisé avec l'assaut du Capitole, qu'il ne reviendrait jamais, etc. Et c'est là que beaucoup ont fait cette erreur qui est humaine, mais de se dire on
ça
revient à la normale.
Ça va passer.
Oui, ça va passer. Alors que non, d'ailleurs, bien avant Bukele qui commente la réélection de Trump, il y avait eu déjà en 2016 Henry Kissinger, qui est une sorte d'entomologue de la politique et du pouvoir, historien, mais qui a été au cœur du pouvoir, parfois de façon un peu obscure pendant des décennies. Il était resté prudent parce que il l'avait son habitude était de fréquenter tous les occupants de la Maison Blanche, et donc je pense Trump, y compris Trump, mais il avait dit, il arrive parfois dans l'histoire qu'il y ait des hommes qui sont des acteurs, même inconscients d'une transformation. Ils ne le savent pas forcément, mais ils marquent un passage d'époque. Mm-hmm. Et ça, lui l'avait dit dès 2016. Donc je pense que ce serait aujourd'hui complètement absurde encore d'imaginer que si Trump s'autodétruit, par exemple, ce qui est très très possible,
oui, c'est possible.
Hein, il a une capacité d'autodestruction qui est très forte, eh bien, on reviendra à l'ancien monde, à l'Alliance Atlantique, à, comme ça, aux élites américaines auxquelles nous sommes habitués. Tout ça ne pourra plus exister sous la forme précédente.
Alors, Giuliano d'Ampoli, vous citez là-dessus Joseph de Maistre dans sa correspondance qui parle de la Révolution française en disant exactement ça, en disant « Nous avons fait l'erreur de croire qu'il s'agissait d'un événement. En réalité, il s'agit d'une époque. »
Oui.
C'est ça.
Oui.
C'est cette époque dans laquelle on est entré. Et alors, la question que je me pose, c'est quand même... en vous lisant, parce que vous parliez de César Borgia essentiellement, mais revenu en tête la fameuse phrase d'Orson Welles dans Le Troisième Homme, l'Italie sous les Borgia a connu 30 ans de terreur, de meurtre, de carnage, mais ça a donné Michel-Ange, de Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la fraternité, 500 ans de démocratie et de paix, et ça a donné quoi? Le coucou suisse.
Alors, en tant que moitié suisse, je dois dire, j'ai toujours trouvé cette phrase un peu vexante et injuste. Donc,
oui, mais la moitié italienne.
Alors, la moitié italienne, par contre, mais, écoutez, difficile de nier que nous vivons une époque extraordinairement intéressante.
Oui. Hein?
Difficile. Regardez, vous parliez au début de ce qui se passe dans la dimension technologique de l'intelligence artificielle et de tout ça. On est quand même en train de vivre une des époques les plus passionnantes qu'on puisse concevoir. D'ailleurs, certains imaginent même qu'elle débouchera un jour sur un avenir post-humain. Il y a aujourd'hui vraiment plus aucune limite. Mais comme vous le savez aussi, pour les Chinois, le fait de vivre dans une époque intéressante est une malédiction.
C'est une malédiction, oui. Absolument. Oui, mais c'est ça qui est troublant, c'est qu'à la fois l'époque est très intéressante et en même temps tous les critères de raison, de culture, de littérature, de pensée, et même de narration, c'est-à-dire la possibilité même de raconter ce qui se passe, sont remis en cause.
Oui, après, là, ma conviction, par contre, est qu'il faut faire l'effort. Nous essayons, par exemple, de le faire avec la revue du Grand Continent que vous connaissez. Moi, j'essaie de le faire depuis mon livre 2019, Les ingénieurs du chaos. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer d'entrer dans la nouvelle logique. C'est-à-dire, il faut, là aussi, vous savez, la Bible, le précepte biblique, je pense, est aussi celui des services de renseignement. C'est aime ton prochain, et c'est-à-dire, surtout, entre dans sa logique, essaye de comprendre, surtout si c'est quelque chose de très loin de toi, surtout si c'est quelque chose qui, à premier abord, comme ça, tu regardes en te disant « mais c'est complètement fou, mais pourtant, ça produit des effets,
oui.
ça prend de la place, ça il y a des millions de gens qui adhèrent, donc soit on se dit bah c'est fou, non c'est n'importe quoi, tout le monde est devenu fou, mais alors par contre on subit un peu l'humiliation d'être battu par des fous et systématiquement, disons, réduit à l'impuissance et à la marginalité par quelque chose qu'on juge complètement idiot.
Par des fous et des illettrés, c'est vrai.
Voilà, et ce qui est... Soit on essaye de faire l'effort de rentrer dans cette logique-là, de voir ce qu'il y a derrière, comment ça se passe, ce qui ne veut pas dire qu'on adhère, mais au moins, ça peut permettre éventuellement de même voilà, de s'y opposer de façon plus efficace.
Et on vous sent tiraillé dans le livre, hein, parce que vous avez tendance à considérer, vous parlez de l'IA comme d'une technologie borgienne et autoritaire, d'un mode de connaissance autoritaire et d'un nouveau mode de pouvoir, en fait. Vous dites qu'en révisant la réalité à une série de 0 et de 1, le codage numérique accomplit une œuvre implacable d'homogénéisation, que quelque part ça va de pair avec le nombre d'asperger qu'on trouve chez les ingénieurs de la tech. Vous avez tendance à les considérer plus ou moins tous comme des asperger. Mais enfin, à côté de ça, il y a quand même des gens comme Peter Thiel qui sont de vrais intellectuels. Formés chez Léo Strauss, formés chez René Girard, qui ont une vraie vision du monde, très discret, mais extrêmement impliqués dans ces projets.
Oui, il y en a très peu. Hein. Le nom de Peter Thiel, effectivement, est sûrement un des plus frappants. Là, il y a véritablement, c'était quelqu'un qui était un libertaire à l'origine, qui a fait de la politique, qui était dans le champ intellectuel et qui, à un moment, s'est dit qu'il était perdant sur ce terrain-là et qui donc a fait une sorte a développé l'idée que c'est à travers la technologie, sans le dire, qu'on pouvait prendre le pouvoir et contourner la politique. Et au fond, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mmh. On parle ce qui est en face de nous. Et Trump en est en partie le révélateur, même s'il n'en est pas véritablement l'acteur. C'est véritablement un changement de régime. Ouais. C'est de ça qu'on parle. Ouais. Hein? Donc, basculer de la démocratie libérale telle qu'on la connaît dans quelque chose d'autre.
Voilà, merci Giuliano D'Ampoli d'avoir été là aujourd'hui avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle le titre du livre, L'heure des prédateurs chez Gallimard. Vous avez aussi été le coordonnateur de l'Empire de l'Ombre, j'arrive pas à lire ce qui est écrit, mais guerre et je ne sais quoi, au temps de l'IA, la revue
guerre
du Grand Continent.
Je crois.
Quoi ?
Guerre et terre, je
guerre
crois.
Guerre et terre, au temps de l'IA, la revue du Grand Continent, un numéro spécial. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assisté de Aurélie Marseille, avec à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Luc Jean. Renault.
France Culture. Beaucoup de prises de parole d'André Malraux sont restées célèbres, comme le discours pour Jean Moulin le jour de son entrée au Panthéon.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais cette série de Salles des Archives vous propose d'aller plus loin en réécoutant Malraux à toutes les grandes étapes de sa vie.
L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant.
Avec à chaque fois une question principale, que signifiait pour lui de s'engager ?
Salles des Archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Populariser la connaissance, passer le savoir, comment le dire ? Vulgariser les sciences, une histoire.
Xavier Mauduit.
C'est la science à la vitesse des lumières avec Émilie Duchâtelet. Et c'est une astronomie populaire avec Camille Flammarion. Une histoire de transmission donc, qui nous conduit à l'école d'Augustine Fouillé pour le Tour de France par deux enfants et vers un passeur d'histoire quand Alain Decaux explore le temps.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et tout de suite, une histoire particulière.
Dall'isola Canare fu condotto al serenissimo Enrico Re di Francia, Don Pietro, uomo selvatico, te presente, si trova presso il serenissimo Duca di Parma, nel quale fui io Antonietta, e ora mi trovo appreso alla signora Donna Isabella Palavicina, signora Marchesa di Soragna.
Don Pietro, homme sauvage découvert aux îles Canaries, fut offert en cadeau à son Altesse Sérénissime, Henri, roi de France, puis de là fut offert à son Excellence, le Duc de Parme. Moi, Antonietta, je viens de là, et je vis aujourd'hui tout près, à la cour de Madame Isabella Palavicina, honorable marquise de Soragna. Inscription sur le tableau de Lavinia Fontana représentant Antonietta Gonsalves. Les Gonsalves. Splendeur et misère du poil. Épisode 2. Des peintures par milliers. Un documentaire d'Hélène Carbonel, réalisé par Laurent Polleret. Bastien Lopez, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se trouve actuellement ? Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce tableau auquel on fait face ?
On est devant le portrait d'Antonietta Gonzalez, qui a été peint par Lavinia Fontana, peu avant 1595. Et il est donc installé dans la chambre de la reine, dans les appartements royaux du château de Blois. Il a été installé dans cette chambre parce que Antonietta Gonzalez, en fait, est rattachée à la maison de la reine, la maison de Catherine de Médicis, et qu'elle vivait, en fait, dans l'entourage royal. Et donc, il y avait une proximité avec Catherine de Médicis. Elle a vécu à Paris, très certainement, mais aussi, probablement, au fil des itinérances de la cour, et donc, certainement, à Blois.
Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau ? Comment elle est représentée, la petite fille, en fait ?
Ce qui est intéressant, c'est que, justement, c'est un portrait de petite fille. On voit une petite fille qui a un sourire espiègle, qui a une couronne de fleurs dans la tête, qui a une très jolie robe avec des soieries brodées, qui tient un papier plié avec des inscriptions sur fond sombre. C'est un petit format, en tout cas c'est pas un tableau très très grand, et il se trouve que le visage de cette petite fille est couvert de poils.
Quand est-ce que Lavinia Fontana peint ce tableau et où est-ce qu'elle en est de sa carrière à ce moment-là ?
Lavinia Fontana, c'est une peintre qui est particulièrement importante à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. C'est l'une des principales peintres femmes de ce contexte en Italie. C'est peut-être la première même à avoir un atelier. Elle est fille de peintre, mais elle est aussi épouse de peintre. Et pourtant, elle est plus célèbre encore aujourd'hui et même en son temps que ces deux hommes. Son mari travaille pour elle plutôt que l'inverse. Et elle fait en fait essentiellement des portraits de personnes importantes de son contexte, des prélats, des aristocrates. Et elle fait aussi des portraits des personnes singulières de son temps, et notamment ce portrait d'Antonietta Gonzalez.
Antonietta, est-ce que c'est une aristocrate ou est-ce qu'elle est accompagnée d'une aristocrate ? Qui commande le tableau en fait ?
Antonietta Gonzalez, donc elle naît à Paris vraisemblablement, et puis avec la fin du règne des Valois, elle est offerte au duc de Parme, qui sont la famille Farnèse à cette époque-là, qui eux-mêmes l'offrent ensuite à une personnalité importante à Parme et à Bologne, et qui s'appelle Isabella Palavicina, qui est marquise de Soragna. Cette personne, qui est une érudite, qui tient salon, qui est une personne qui s'intéresse aux arts, aux lettres et aux sciences, commandite manifestement ce tableau à Lavinia Fontana pour l'offrir à l'un de ses proches.
À votre avis, pourquoi Isabella Palavicina a envie de montrer la petite fille et de la faire peindre ?
De la même manière que quand elle est à la cour de France, Antonietta Gonzalez est dans l'entourage de la reine qui l'exhibe comme une forme de trésor. Quand elle est en Italie, quand elle est auprès de cette marquise de Soragna, elle est un objet particulier. Elle est quelque chose qui est remarquable et qui doit être montré. Elle est une singularité, donc en fait elle est une création divine particulière. Et elle est un peu observée sous cet angle-là. La marquise de Soragna, c'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité, et donc par voie de conséquence, Antonietta Gonzalez n'a peut-être pas le même statut directement et la même considération en France et en Italie. Mais le fond, c'est quand même qu'elle appartient à une aristocrate et et qu'elle appartient à son entourage direct.
Est-ce que Antonietta, on a dit qu'elle était donc montrée par cette marquise avec ce côté un peu merveilleux, est-ce qu'elle a le même statut que son père ?
Je pense qu'il y a une petite distinction sur l'intérêt qu'on porte à ces personnes particulières entre la France et l'Italie, entre la cour de France et une cour érudite à Bologne ou à Parme, où l'intérêt, en fait, il est un peu différent. Mais finalement, c'est quand même un peu la même considération et c'est des personnes qui restent complètement soumises au bon vouloir des princes.
Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement touchant dans ce tableau ?
Ce qui est extrêmement émouvant, c'est que, en fait, on ne voit pas un monstre. On voit une petite fille, on voit une petite personne qui nous regarde avec ce petit air espiègle, ses yeux qui nous sourient aussi. Elle a des toutes petites mains, très très mignonnes, et c'est ça, en fait elle est mignonne. Peut-être que c'est la singularité de ce tableau de Lavinia Fontana sur d'autres représentations de monstres, parce qu'on parle de monstres à l'époque. On cherche à mettre en avant ce côté monstrueux, on cherche à mettre en avant ce qui va choquer, ce qui va déranger, ce qui va perturber, mais au détriment de la personne qui est représentée, parce qu'on doit rire d'elle, on doit valoriser l'écueil qu'elle est, en fait, qu'elle représente. Lavinia Fontana, elle nous montre une petite fille qui a quelque chose en plus. C'est quand même particulièrement touchant. Lavinia Fontana, elle a aussi fait des dessins. Il y a un carnet de dessins qui est à la Morgan Library à New York, dans lequel il y a une série de personnalités importantes de ce contexte italien, de Bologne en particulier. Il y a des moines, il y a des aristocrates, voilà. Et dedans, il y a aussi un petit dessin d'Antonietta Gonzalez, parmi les autres, au même titre que les autres, et sans plus ou moins de soin et sans aucune violence, en fait, dans la manière dont elle est représentée. Lavinia Fontana, sans doute, la voit comme exactement tout le monde.
Concernant mon sauvage, je vais le faire peindre en pied et vous l'envoyer prochainement. J'ai écrit en France pour m'enquérir de ses origines. Il n'en sait pas grand-chose, car il est arrivé très jeune et a été offert au roi. Mais il n'est pas sauvage comme on pourrait le croire. L'homme est en réalité un garçon raffiné et courtois, mais juste hirsute. La petite fille est également bien élevée. Si elle n'avait pas de cheveux sur le visage, elle serait une jolie fille. Le petit garçon ne parle pas, mais il est drôle et amusant. Les parents de l'homme n'étaient pas sauvages, et si je ne me trompe, ils étaient espagnols. Je vous enverrai une copie du portrait de l'homme, que j'ai en pied. Il n'est pas très grand. Lettre écrite en 1583 par le duc Guillaume V de Bavière à sa sœur.
Après la mort de Catherine de Médicis, on sait que les Gonzalez quittent Paris. Où est-ce qu'ils se rendent, et qui va les peindre à ce moment-là ?
Alors, après la mort de Catherine de Médicis, effectivement, les Gonzalez vont voyager en Europe.
Myriam Maraj-Gouraud.
Et on sait qu'ils sont passés par Munich. Qu'est-ce qui s'est passé à Munich ? Donc, dans les années 1580 ou 82, ils arrivent à la cour de Munich et on le sait parce que le duc de Bavière, Guillaume V, qui est l'un des premiers à avoir constitué une Kunstkammer, c'est-à-dire une chambre des merveilles, une sorte de collection de merveilles, Guillaume V commande des tableaux de cette famille. On va avoir des portraits assez impressionnants parce que ce sont des tableaux en taille réelle. 1m95, c'est un très très haut tableau de Pedro Gonzalez, adulte, donc à ce moment-là, évidemment. Et puis des portraits des petites filles, enfin de la fratrie en fait, qui vont être également représentés sur des tableaux différents. Donc chacun a son portrait. Et ces tableaux-là seront offerts par Guillaume V à son oncle, qui est l'archiduc Ferdinand II de Tyrol et qui, à ce moment-là, vient lui aussi de mettre en œuvre une très très belle collection, unique en son genre en Europe, qui correspond aux moyens extraordinaires dont il dispose, donc dans le château d'Ambras à Innsbruck. Donc Guillaume V lui offre ces magnifiques tableaux qui sont offerts, alors c'est très intéressant parce qu'ils rentrent dans l'inventaire de Ferdinand II à Ambras sous le nom « Homme velu de Munich ». En fait, comme si ces hommes velus étaient natifs de Munich. Or, ce sont bien sûr les tableaux qui viennent de Munich. C'est pour montrer que c'est Guillaume V qui les lui a offerts. Et c'est donc peut-être ça qui est le plus important à ce moment-là, quant à l'intérêt de ces tableaux, parce qu'ils ont une provenance prestigieuse. Ils viennent de la plus grande Kunstkammer d'Europe à cette époque-là. Donc, il y a une forme comme ça de passage de Munich à l'Autriche, à Innsbruck. On reste dans la même zone, mais en tout cas, les tableaux vont migrer. Ils sont toujours aujourd'hui, on peut aller les voir au château d'Ambras. Ils sont devenus tellement célèbres au château d'Ambras que, ils ont donné leur nom au syndrome l'hypertrichose qui s'appelle de manière vernaculaire, le syndrome d'Ambras. Ce sont les premiers grands représentants, en fait, ou grands représentés de cette maladie. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, parce que alors que les tableaux sont encore à Munich, Joris Hofnagel les reproduit sous la forme de miniatures, de médaillons avec des devises, cet album des quatre éléments. Ces médaillons vont être offerts à Prague, à Rudolf II. Donc l'image circule sous différentes formes. Vous avez de très très grands tableaux, vous avez des petits médaillons dans un album, et puis il va y avoir des copies qui vont être demandées par le beau-frère de Guillaume V, en l'occurrence à Graz, Charles de Styrie, et puis son épouse. Tout le monde en réclame en fait. Et on se retrouve avec une sorte d'engouement où Guillaume V, qui était à l'origine des premières images, distribue en quelque sorte ce qu'il appelle ses bons sauvages, c'est-à-dire des portraits, des reproductions à plus large échelle de la même image de départ. Donc vous avez comme ça une multiplication des images dans un espace relativement resserré, parce que c'est l'espace germanique et les familles des Habsbourg. Mais tout le monde en demande, et c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que en fait le phénomène prend de l'ampleur. Il faut les avoir chez soi pour avoir l'impression d'avoir constitué sa petite ou grande collection de curiosités.
Et quand vous dites tout le monde, ça signifie que les gens du peuple aussi vont avoir leur reproduction de ces tableaux ?
L'image circule chez les Habsbourg. Alors évidemment, on est dans un milieu princier, extrêmement aristocratique, voire même ce sont des empereurs, des archiducs, enfin des gens extrêmement puissants. Là, on est dans les années 1580 jusqu'à peu près années 1590. Pour le moment, ça reste un peu dans ce cercle-là. Et puis après, ça va. Les tableaux vont migrer d'une certaine façon vers l'Italie.
Mary Wisner-Hanks, on voit qu'on a beaucoup de reproductions de tableaux représentant les Gonzalez. Et paradoxalement, on a très peu d'informations sur ce qui leur arrive une fois en Italie. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément ce qu'il advient d'eux en Italie ?
Je pense que même toute la famille est offerte en cadeau à la famille Farnèse, à Alexandre Farnèse en particulier. Et cela explique leur voyage de Paris à l'Italie. Évidemment, les guerres de religion faisaient rage à l'époque à Paris. Il ne faisait pas bon vivre. Donc l'Italie était plus enviable. Alexandre Farnèse était à l'époque un général catholique dans les guerres de religion. Il venait de remporter une victoire et je pense que la famille aurait pu lui être offerte en cadeau par le roi français, mais rien n'est sûr.
Et quel est le destin particulier de chacun des enfants ?
L'aînée, la fille, s'appelle Maddalena, c'est l'aînée. Elle est née au début des années 1570. Elle se marie. Le duc de Parme est son protecteur et le protecteur de toute la famille à leur arrivée en Italie. Il lui donne une dot afin qu'elle se marie et nous avons ce certificat de mariage de Maddalena en notre possession. Le duc de Parme fait partie de la famille Farnèse, une famille extrêmement riche. Ce sont les mécènes, les protecteurs de la famille une fois en Italie. The records related to the family that she married.
Maddalena a épousé l'homme qui s'occupait des chiens de chasse de la famille Farnèse. Aldrovandi est un médecin et un collectionneur italien qui représente la famille. Lui nous dit que ce couple avait au moins une fille et que cette fille était velue. Donc le couple formé par Maddalena et son époux. Donc Petrus et Catherine avaient une petite fille et nous savons qu'elle était velue. Ensuite, un deuxième fils, c'est celui qui, d'après Aldrovandi, n'était pas poilu. Ensuite, nous avons Enrico, en italien, qui lui est velu. Il s'est marié quatre fois dans ce petit village à Copromonte. Il a eu des enfants. Certains semblent avoir été velus, avoir une pilosité excessive. Ensuite, nous avons Charlotte ou Francesca. Elle n'a jamais épousé personne. Et ensuite, nous avons Antonietta.
Donc il existe de nombreux tableaux, dont celui qui m'a d'ailleurs fait connaître la famille. Elle, elle est née en Italie. Et ensuite, deux garçons viennent après elle.
Donc
quatre enfants sont nés en France et trois en Italie.
Bastien Lopez, tout à l'heure, vous nous avez lu une inscription en italien. Et en fait, cette inscription, c'est un papier que Antonietta Gonzalez tient devant elle sur le tableau de Lavinia Fontana. Est-ce que vous pouvez me dire ce que nous raconte ce papier ?
Antonietta Gonzalez porte un papier qui, en fait, dit son identité sur ce tableau. Et en fait, Lavinia Fontana fait poser cette petite fille, parce que c'est ça, elle l'a fait poser en fait. C'est pas une effigie ou une image de monstre, c'est une petite fille qui pose. Et donc elle l'a fait poser avec ce papier qui est sa carte d'identité. Elle dit en gros, des îles Canaries, mon père, dont Pierre le Sauvage, a été offert à Henri II, au roi de France. Aujourd'hui, Pierre le Sauvage, mon père, se trouve près du duc de Parme, où j'étais moi aussi, mais désormais je me trouve auprès de Donna Isabella Pallavicina, la marquise de la Sorania. Donc en fait elle dit qui est sa propriétaire. C'est terrible, parce qu'elle montre son statut d'être inférieur sur ce papier. Mais en fait, ça nous permet d'avoir un CV, d'une certaine manière, extrêmement précis, une biographie extrêmement précise de son parcours à travers différentes cours d'Europe, et donc de mieux retracer son histoire.
Et est-ce que ça participe du narratif un peu du personnage façon Freaks, c'est-à-dire créer une histoire pour donner à voir quelque chose d'un peu peut-être exotique? Ou est-ce que c'est plus le côté, comme vous le disiez, montrer qu'elle passe d'une maison à une autre, donc d'un propriétaire à un autre?
Ben en fait, il y a les deux choses à la fois. C'est-à-dire que son visage dit « je suis une sauvage », avec une certaine délicatesse, en l'occurrence. Mais dans le regard contemporain, c'est une velue. Donc c'est une personne qui vient dans la culture populaire du fin fond de l'Asie, qui possiblement mange de la viande crue, des humains, que sais-je. Ça, c'est les histoires qui sont racontées. Mais en même temps, elle a cette jolie robe, elle a cette couronne de fleurs, et elle a ce papier qui dit « J'ai appartenu au roi de France, au duc de Parme et à la marquise de Sorania ». On revient sur cette notion de CV. Elle a des super maisons sur le papier qu'elle présente. Elle est toute cette histoire complexe aussi, mais elle est toute cette histoire prestigieuse en même temps.
Ce tableau, il exerce un certain pouvoir de fascination. En tout cas, il a été bien mis en valeur dans cette salle, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la réaction des visiteurs quand ils le voient ?
Les visiteurs ont toujours des réactions un peu différentes devant ce tableau. Et je crois que c'est quand même un tableau qui fascine. C'est un peu notre Joconde aussi. Enfin, c'est un tableau qui est très particulier et puis qui attire le regard, qui fait que les gens s'arrêtent devant. On se pose des questions. On a besoin de le regarder un peu mieux pour être sûr de ce qu'on voit. On a besoin de lire le texte à côté pour comprendre ce qui est représenté. Ouais, c'est une pièce importante de la visite. Ouais.
C'est Tonina que vous voyez ici. Elle est toute velue, comme son père, née aux îles Canaries. Elle a eu un frère, tout aussi velu qu'elle, qui fut donné au seigneur Farnèse. La dite Tonina se trouve aujourd'hui à Parme. Légende rédigée sous une image gravée représentant Antonietta Gonzalez.
Le tableau réalisé à Rome par Caracci, qui s'appelle Arrigo le Velu, Pietro le Bouffon, Amon le Nain et autres bêtes. C'est un tableau qui est un très grand tableau, qui a été réalisé en 1598 et qui représente donc au centre Arrigo le Velu. Et puis de part et d'autre, il y a un nain et un fou. Et autour d'eux, avec eux, un perroquet, un singe, deux singes même, plusieurs chiens, des chiens de grand prix, qui sont autour d'eux. Et puis, ils sont en fait dans une sorte de nature idyllique, puisqu'ils sont représentés dans les jardins farnèses, avec une végétation très douce. Enfin, on est très loin de l'idée d'une nature hostile, de rocailleuse ou quoi que ce soit. Donc, ici, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'effectivement, on a totalement oublié l'aspect nature hostile et paysage sauvage. Donc, on n'est pas en train de parler d'un sauvage. On est en train de nous dire « Arrigo le velu ». Le mot « sauvage » a disparu du titre, hein. Il faut quand même le noter. Il est donné par son diminutif par son petit nom, disons, Arrigo, donc une forme de familiarité, quelqu'un de, avec qui on a un commerce régulier ou qui n'est pas, en tout cas, effrayant. Et ce Arrigo, par contre, s'il n'est pas dans une nature bizarre, sauvage ou hostile, et s'il n'est pas effrayant a priori, ayant un nom, etc., étant dans une communauté sociale très nette, là, dans ce tableau, on voit que, en fait, tout le monde s'entend très bien, ils se font des sourires, il y a des gestes assez élégants, une forme de nature idyllique où tout le monde est en harmonie. Mais ce qui est étonnant, par ailleurs, c'est que, au-delà de toute cette harmonie, pour une fois, Arrigo est représenté pratiquement nu. Et donc pas du tout avec des habits de cour qui faisaient de lui un être policé. Enfin, les habits, ils avaient ce rôle sémiotique de poser un signe de civilisation. Là, on va encore une fois jouer sur cette bigarrure, hein, sur cette idée qu'il est à la fois quelque chose et autre chose. Et c'est ce qui caractérise tous les autres personnages du tableau aussi. C'est-à-dire, si on pense au perroquet, c'est un animal mais qui parle. Le singe, c'est un animal, mais qui est capable, à s'y méprendre, d'imiter l'homme. Les chiens sont des animaux, mais qui sont très très proches de l'homme. Et les hommes qui sont là sont un nain, donc, dont on hésite à l'époque à savoir si c'est pas une bizarrerie à la frontière de l'humanité. Et un fou, qui est aussi, lui aussi, un être des limites. Donc, on voit bien que le tableau, il est conçu comme une sorte de musée des bizarreries, des curiosités. Donc, en fait, c'est comme si le peintre avait rassemblé sur ce tableau une somme de curiosité humaine et de curiosité animale.
Vincent Pécoil, vous êtes historien de l'art et en 2007, vous avez imaginé une exposition autour des freak shows. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un freaks ?
Alors, il s'agit d'un être humain, d'un animal ou d'une plante qui est difforme, par exemple, un mouton à cinq pattes. En fait, il y a un sens plus spécifique de ce mot qui s'est développé à partir de la moitié du 19e siècle aux États-Unis avec l'essor de ce qu'on a appelé les freak shows, donc la mise en scène ou le spectacle de gens atteints de difformité.
Et est-ce que le tableau qui représente Arrigo et dont on vient de parler procède de cette même logique que celle du freak show ?
Oui, tout à fait. Hein. C'était souvent des spectacles collectifs. Donc la présentation collective était quelque chose, évidemment, qui ajoutait au côté spectaculaire de l'exposition. Quand vous avez quelqu'un d'immensément grand à côté de quelqu'un de minuscule, évidemment, le contraste ne fait qu'accentuer les caractéristiques de l'un et de l'autre. Alors, les freak shows, ils sont tombés en désuétude à partir des années 1910. Le film de Browning date de 1932. En fait, il est passé relativement inaperçu à sa sortie. Mais c'est devenu un film très important lors de sa ressortie dans les années 60. En fait, le point de vue adopté par le réalisateur, il consiste en un retournement de la monstruosité. Dans le film, ce sont les normaux qui sont moralement les monstres. Assurément, la famille Gonzalez aurait pu faire partie de ce freak show, par exemple. Chez Barnum, on présentait Lionel l'Homme-Lion. Il a été aussi présenté sous ce nom en France. Lionel l'Homme-Lion, il était atteint de la même maladie génétique, hein, et donc il avait une chevelure qui recouvrait entièrement le visage. C'était un freak, il faisait partie de ce type de spectacle. Donc, à n'en pas douter, à l'époque, la famille Gonzalez aurait pu faire partie de ce type de spectacle, assurément.
Oui, alors il faut pas faire d'anachronisme trop sur le freak show et Barnum, etc. Parce qu'en fait, les configurations sont pas les mêmes. Il y a pas de, enfin ce que font les freak shows, c'est gagner de l'argent avec ça. C'est de faire des spectacles avec des êtres différents et puis de faire payer un droit d'entrée, etc. C'est une autre logique qui est à l'œuvre, me semble-t-il. Il y a à la fois des enjeux politiques, des enjeux encyclopédiques, des enjeux liés au savoir, l'interrogation sur les causes. comment est-ce que c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et puis de créer les conditions artificielles d'une mise en scène, puisque quand on les habille avec de très très beaux habits, mais qu'ils ont leur tête hirsute, qui émerge comme ça, comme une surprise étrange de cette belle robe. Forcément, il y a des jeux sur l'ambiguïté, sur une sauvagerie qu'on montre et à la fois qu'on cache. Mais c'est cette étrangeté-là, elle est à regarder, mais c'est pas comme un freak show. Je pense pas que ce soit comme un freak show. C'est pas pour avoir peur ou pour se donner le frisson. C'est vraiment pour démontrer et regarder l'infinie diversité des choses.
None of the family were put on display.
Aucun membre de la famille n'a été exhibé. Il n'y avait personne qui les traînait partout en les exhibant. Regardez tous ces velus. Ils portent de très beaux vêtements, ils sont très bien nourris, ils vivent dans un environnement très agréable. Il côtoie des milliers d'autres personnes à la cour qui occupaient d'autres fonctions. Au 19e siècle, en revanche, souvent, les personnes avec une apparence particulière, comme les femmes velues, les fakirs, les contorsionnistes, d'autres personnes qui avaient une caractéristique physique, elles rejoignent des cirques, des freak shows, et sont contemplées, sont scrutées par la population. Au XVIe siècle, personne n'a payé pour voir les membres de la famille Gonsalves. Ils ont été représentés, ils ont été peints. Ulysse Aldrovandi, ce médecin italien, a demandé des représentations, des dessins de la famille. Donc la famille a été scrutée à cette fin. Mais personne ne leur jette des regards curieux comme si c'était des animaux étranges enfermés dans une cage. En revanche, au 19e siècle, ça aurait été une toute autre histoire.
Denis Crouzet, on sait que Petrus, Catherine et certains de leurs enfants sont morts en Italie à Capodimonte. Pour Antonietta, on perd sa trace après le tableau de Lavinia Fontana et globalement, on a assez peu d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire des Gonzalez ?
On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est une sorte de vide, comme si il n'y avait pas eu peut-être la même volonté de Catherine de Médicis de symboliser une sorte d'humanité de ses enfants. Et c'est perdu. L'histoire est souvent très frustrante, hein. Mais ce que je veux dire, c'est cette expérience première de la cour des Valois, marquée par l'érasmisme, ayant lu Thomas More, ayant lu Rabelais, est exceptionnelle, je pense, d'une immense ouverture d'Henri II et de Catherine de Médicis. Et le choc qu'ils vont ressentir quand les guerres vont submerger, surtout Catherine, quand vont submerger le royaume, se comprend mieux parce qu'il va contre cette espérance qui faisait que l'autre que soi pouvait être accepté.
C'était Les Gonsalves, splendeur et misère du poil. Épisode 2, des peintures par milliers. Merci à Bastien Lopez, Mary Wisner Hanks, Myriam Arajgourou, Denis Crouzet et Vincent Pécoal. Lecture, Vincent Couesme et Hélène Carbonel. Prise de son, Laurent Polleret, Anthony Thomasson, Noé Chaban et Ludovic Auger. Mixage, Jean-Guilain Meige. Archivina, Mylène Touchet, chargée de programme. Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire d'Hélène Carbonel, réalisé par Laurent Polleret.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture.
France Culture propose une nouvelle collection de podcasts, Les Aventuriers de l'archéologie. Des découvertes racontées sous forme d'enquêtes par les archéologues qui les ont faites. Un paléopolar.
La première découverte de restes humains vraiment significatifs, elle a lieu en 2007.
Les Aventuriers de l'archéologie, l'énigme d'Hilroud, un si vieux sapiens, par Jean-Jacques Hublin, réalisation Assia Weber, une nouvelle collection de 4 épisodes à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Comment capter le chaos du monde sans jamais cesser d'en chercher la beauté? Pour sa dernière exposition avant fermeture, le Centre Pompidou donne carte blanche à Wolfgang Tillmans. L'artiste et photographe allemand investit et transforme l'ancienne bibliothèque publique d'information pour une exposition qui explore plus de 35 ans de pratiques artistiques. Wolfgang Tillmans, rien ne nous y préparait, tout nous y préparait. Du 13 juin au 22 septembre 2025, au Centre Pompidou à Paris. Un partenariat France Culture.